Radio Okapi. Le journal vous est présenté par Belinda Bosuma.
Non à toute révision ou changement de la constitution telle qu'annoncée par le chef de l'État. C'est la position de l'opposition affichée hier à Kinshasa dans une déclaration commune. Il rappelle que cette constitution a été mise sur pied pour empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. La persistance de la guerre à Beni, Butembo et Lubero au Nord Kivu est un élément majeur qui impacte négativement le respect des droits de l'enfant à l'éducation dans la région. C'est ce qu'affirme l'encadreur principal du Parlement de l'enfant à Beni, Joël Kabuya, l'a révélé hier en marge de la Journée mondiale de l'enfance. Et puis, l'invité de ce matin, Mbemba Pezo Dizolele, professeur à l'université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il parle des conclusions de la recherche sur les 32 ans de règne du maréchal Mobutu et pense qu'il faut tirer des leçons du bon côté de ce régime. Madame, Messieurs, bonjour. L'opposition s'affiche unie pour dire non à toute révision ou changement de la Constitution telle qu'annoncée par le Président de la République dans une déclaration commune lue par Emmanuel Chadari du FCC hier devant la presse au siège de la CENCO à Kinshasa. Les opposants et autres forces politiques et sociales rappellent que, contrairement aux affirmations du chef de l'État, l'actuelle Constitution n'est pas l'œuvre des étrangers. Ils rappellent également que cette Constitution rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum, a été mise sur pied pour empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. Voici un extrait de la déclaration de l'opposition et autres forces politiques et sociales de la RDC, lue par Emmanuel Chadari.
Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation Monsieur Félix Tshisekedi, sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, celle-ci est issue du travail des Congolais réunis à Simisi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une ni de belligérants, encore moins de puissances étrangères.
Par ailleurs, les signataires de cette déclaration affirment qu'aucune disposition de la Constitution n'empêche Félix-Antoine Tshisekedi d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais, notamment en garantissant une rémunération décente pour les militaires, policiers, enseignants, médecins et autres fonctionnaires de l'État, en récupérant Bounagana et la centaine d'autres localités occupées par le M23 et en mettant fin à la guerre dans l'Est ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays, signalant que cette déclaration porte notamment la signature du FCC, Ensemble pour la République en vol, SID, Denis Mukwege et plusieurs cadres politiques indépendants. Entre-temps, en Ituri, le centre provincial de la police nationale congolaise pour la sécurisation des élections est opérationnel depuis hier. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le gouverneur de province. Cette structure est dotée d'un bâtiment équipé pour son bon fonctionnement. Il s'agit d'un don du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle a pour objectif d'assurer notamment la sécurité publique pendant cette période post-électorale. Isaac Remoyope, reportage.
Les bâtiments qui abritent le centre provincial de la police nationale congolaise pour la sécurisation des élections à Bounia est composé de 4 cellules équipées de chaises, tables, ordinateurs et d'une salle de réception. Ce centre est également doté de panneaux solaires et de connexions Internet en vue de faciliter la communication dans le cadre de la coordination du processus électoral. Selon le commandant provincial de la police à Ituri, cette structure va jouer un rôle important dans la régulation des conflits dans le cadre du contentieux électoral et la suite du processus processus électoral dans cette province, le général Ngoï Senghelwa.
Nous sommes les régulateurs de conflits. Quand il y a le maintien de l'ordre, nous intervenons. Quand il y a des situations judiciaires, nous gérons. La sécurité publique aussi.
Pour les gouverneurs de province, cette structure vient renforcer les efforts de la police pour la sécurisation des élections qui se sont bien déroulées en Ituri, malgré la présence des groupes armés dans certaines zones. Le général Johnny Luboya.
L'Ituri peut vous rassurer que nous avons eu les meilleures élections de la RDC. Aujourd'hui, nous ouvrons ce bâtiment qui va nous permettre encore davantage d'assurer cette sécurité.
Le PNUD a également remis des motos à cette structure dans le but d'améliorer les conditions de travail de la police en Ituri. Les élections des gouverneurs n'ont pas été organisées en Ituri, qui est sous l'état de siège. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nord Kivu, la persistance de la guerre à Beni, Butembo et Lubero est un élément majeur qui impacte négativement le respect des droits de l'enfant à l'éducation dans la région. Joël Kabuya, encadreur principal du Parlement de l'enfant à Beni, l'a fait savoir hier 20 novembre à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Selon cet acteur de la protection de l'enfant, malgré la gratuité de l'enseignement de base, plusieurs défis demeurent, notamment le déplacement des enfants. Ces défis mettent à mal les conditions d'une scolarité normale. Joël Kabuya estime que le gouvernement doit rétablir la paix pour garantir le respect des droits de l'enfant, il a dit à Guylaine Kassassia.
Il y a encore un gap par rapport à la protection, à l'éducation et dans la promotion des enfants dans notre communauté. Le droit à l'éducation, c'est garanti par la loi. Mais vous seriez étonné avec moi de vous dire que, d'une part, lorsque nous faisons de terrain, ce n'est pas seulement au niveau de la ville, mais aussi en territoire. Eh bien, il y a plusieurs écoles dans l'est de la République démocratique du Congo qui ont connu encore des sérieux problèmes où les enfants n'ont pas étudié. L'année qui a commencé, jusque là, il y a des difficultés. Par rapport aux occupations des entreprises, par les groupes armés qui ne permettent pas à ce que les enfants se sentent d'aller droit à l'éducation. Pour dire, non seulement ces enfants qui ont été dans leur contrée, mais il y a ceux qui ont viré vers les contrées hautes. Même si la gratuité soit garantie dans les écoles primaires, le défi reste maintenant les emplacements. Parce que nous grandissons, nous tous, sachant que le critère maximum dans une salle de classe, on devrait avoir 45 enfants avec un enseignant. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pléthoresque. Des enfants traumatisés par des circonstances de guerre. C'est aussi une façon pour nous d'interpeller les gouvernements congolais.
Province du Haut-Uele, la coordination nationale de l'association des victimes du Congo dénonce les menaces, les intimidations, le traitement dégradant et inhumain infligé aux populations de quelques villages du territoire de Ouattara. Ces dernières doivent en effet être délocalisées au profit de la société Kibali Gold Mining, mais la société civile exige au préalable un dialogue direct avec cette compagnie minière qui devra déboucher sur la signature d'un cahier de charges avant toute délocalisation et une digne relocalisation. Explication Jacques Mkonkole.
Au total, 27 villages du groupement Mandra Mandra dans le secteur de Kibali sont concernés par cette éventuelle délocalisation, déclare Sadiki Chemukobia. Parmi ces villages, le coordonnateur national de l'association des victimes du Congo cite notamment Mege, Malika Kalimva et Bandal pour s'être opposés à la démarche initiée par les gouverneurs pour obtenir leur délocalisation. 4 personnes, dont une femme, ont été arrêtées puis transférées à Isiro depuis le 22 octobre dernier par la administrateur du territoire de Ouattara, affirme Sadiki Chemukobia.
Et les raisons, ma fille, c'était quoi? C'était de les solliciter, de voir comment ils peuvent accepter d'être corrompus avec un montant de 120 000 dollars par chacun pour qu'un, à leur tour, revienne aussi sensibiliser leurs camarades à récupérer 500 dollars et 50 tonnes. Nous demandons l'argent que l'administrateur impose déjà à récupérer les 500 dollars, qu'il puisse d'abord nous montrer l'origine de cet argent. Il a tiré cet argent où?
Tout en ne reconnaissant pas cette association, Dieudonné Magaï nous renvoie auprès du gouverneur de province pour en savoir un peu plus. Cependant, ce dernier n'a pas pu répondre à nos appels. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Province du Haut-Katanga, la problématique de la présence des militaires dans les sites miniers est toujours d'actualité. Plus d'une fois, les ONG de défense des droits de l'homme ont non seulement décrié cet espace, cet aspect des choses, mais aussi les cas de violation des droits de l'homme qui sont commises par ces hommes en uniforme. Du côté gouvernement, on indique que cette question est déjà à l'étude. Jean Gandou.
Les ONG de défense des droits de l'homme, la société civile et plusieurs autorités tant civiles que militaires sont déjà revenus sur cette question. Et la situation n'a guère changé. Au cours du briefing organisé lundi dernier à Lubumbashi par le ministre de la Communication, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur y est revenu, Jacquemain Chabani.
Il y a certains de nos hommes en uniforme qui sont aujourd'hui sanctionnés pour ces faits-là. Mais nous nous retrouvons devant une situation où nous avons un bon nombre de sites miniers qu'il faut nécessairement sécuriser. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes déjà dans une initiative de réorganiser au niveau national la police des mines pour lui permettre de reprendre ses prérogatives sur tous ces sites.
Et pour le ministre de Mines, il est temps de redynamiser l'inspection générale de mines pour une bonne traçabilité de minerais. Kizito Pakabomba.
L'inspection générale des mines, qui est aussi en train d'être remise sur pied, va aller de plus en plus fréquemment sur les sites pour s'assurer vraiment que tout se fait dans les règles de l'art et que le système de traçabilité peut nous garantir à l'entrée des entités de traitement que l'on a un minerai qui respecte tous les aspects de bonne gouvernance, des droits humains, mais également de la source d'approvisionnement qui n'est pas une source illicite.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Par ailleurs, au sud Kivu, les minerais produits dans le territoire de Mwenga profitent plus aux étrangers qu'à la population locale. Ce cri d'alarme a été exprimé lors d'une journée de réflexion sur l'exploitation minière dans ce territoire, une activité organisée le week-end passé à Mwenga par l'ONG Best. C'était à l'intention des représentants de toutes les composantes de la société civile dans sa diversité. Jean Kassami.
Avec ses diversités en ressources minières, le territoire de Mwenga continue à sombrer dans la misère. Ces richesses du sous-sol sont exploitées en grande partie par des sociétés étrangères. Les participants au forum sur l'exploitation des minerais à Mwenga reprochent à ces sociétés de travailler dans l'illégalité. Miki Mutiki de la thématique composante mine.
Il y a des entreprises chinoises, ils ont juste le document du cadastre minier et avec quelques couvertures politiques, d'autres ont des permis d'exploration, mais ils passent à l'étape d'exploitation. D'autres ont des permis d'exploitation, mais sans prendre en compte la responsabilité sociétale, ça veut dire le cahier des charges des communautés.
Lungele Itebo Samuel, président du bureau de coordination de la société civile territoriale de Mwenga, revient sur les principales recommandations formulées au cours de cette journée.
Que l'État congolais prenne sa responsabilité à l'application de la loi et règlements miniers pour mettre fin à l'exploitation illicite en territoire de Mwenga.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Direction la province du Kwilu, des boutiques et d'autres maisons commerciales réduites en cendres à Massimanimba, un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mardi à hier mercredi au centre commercial. Plusieurs marchandises et biens de valeur ont été consumés. Selon des témoins, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Cet événement malheureux a mis en ébullition le chef-lieu du territoire de Massimanimba. Irène Mboma, reportage.
Selon les témoins, le feu a principalement ravagé des grandes boutiques de la Fondation Michael ainsi que d'autres maisons commerciales au centre commercial de la cité de Massimanimba sur la RN1. Rien n'a pu être sauvé après cet incendie qui s'est déclaré mardi à 20h locales. Maisons, toitures, plusieurs appareils électroménagers et des produits divers sont partis en fumée. Certains jeunes ont tenté sans succès d'éteindre les feux avec du sable. Un des témoins trouvés sur les lieux de cet événement inattendu explique.
Il y a un incendie qui s'est passé ici. Le bilan, tout est parti, tout. Même l'argent, même les biens qui sont là-bas, tout sont partis. Ils ne récupèrent rien. Nous n'avons pas même l'anti-incendie ici à Massimanimba. Donc il n'y a que des jeunes qui jettent le sable pour éteindre les feux. À cette heure, tous les robinets sont fermés. La régie des zones ouvre les robinets à 6h ou 7h et ils ferment ça à 18h.
Face à ce désarroi, les propriétaires des maisons concernées ont passé une nuit en plein, rapportent nos sources. Les articles d'autres maisons autour ont été endommagés et évacués dans la précipitation par des jeunes du coin. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Incendie aussi au Nord Kivu. Une vingtaine de maisons sont parties en fumée hier au quartier Imbi, dans la cité de Mueso, groupement de Bachalimokoto, territoire de Masisi. Selon certaines sources de la société civile locale, l'origine de ce sinistre survenu vers 5 heures du matin reste inconnue. Des boutiques et plusieurs biens de valeur sont partis en fumée, indiquent les mêmes sources. Mueso est situé dans la zone occupée entièrement par les rebelles du M23 et vidé d'une bonne partie de sa population. C'était parmi les plus beaux quartiers de Kinshasa. Quelques années après, la célèbre cité Mohamed Mobutu n'a presque plus rien pour attirer les regards. Le quartier est délabré avec une voirie en lambeaux, plus aucune route carrossable dans cet ancien quartier prestigieux de la commune de Mongafula. Billy Van Lutumba pour le reportage.
Répondant à notre question, Jean Panzou que nous croisons à l'entrée de la cité Mama Mobutu souhaite carrément que l'on refasse le monde pour retrouver ce que fut cette cité urbanisée pour contenir 740 villas.
Les routes de la cité Mama Mobutu sont dégradées compte tenu de la durée depuis la construction de ces quartiers.
On enfourche alors une moto pour découvrir. Nous roulons quelques secondes seulement. C'est une route fortement crévassée qui nous prévient déjà sur ce qui nous attend plus loin. Tout le monde obligé d'emprunter l'avenue Esnel. Celle de la santé est bloquée pour des travaux mais à l'arrêt depuis environ 3 mois. Nous la prenons quand même pour découvrir et nous roulons sur de la terre puis dans une succession de flaques d'eau, presque un ruisseau.
Regardez comment toutes les avenues sont abîmées. Partout là, c'est très dégradé.
Les tentatives de réhabilitation stoppées, c'est le désespoir qui s'installe à écouter cet habitant.
Le risque est que nous puissions perdre la cité Mama Mobutu qui héberge maintenant beaucoup de moustiques à cause des eaux qui stagnent sur les routes. Mama Mobutu que vous connaissiez n'existe plus aujourd'hui.
C'est avec cette note de désespoir que nous descendons de la moto à la sortie où est mentionné. Au revoir, cité Mama Mobutu.
Actualité internationale. Après 3 ans et 5 mois, Choguel Kokala Maïga, premier ministre malien, est démis de ses fonctions par les autorités de la transition. Ce limogeage intervient après des critiques publiques formulées samedi contre le pouvoir.
L'invité.
Nous recevons le professeur Mvemba Pezodizolele de l'université Johns Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Il parle des conclusions de la recherche sur les 32 ans de règne du maréchal Mobutu et pense qu'il faut tirer les leçons du bon côté de ce régime. Directeur Afrique au Centre d'études stratégiques internationales des États-Unis, professeur Mvemba Pezodizolele s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Professeur Mvemba Pezodizolele, bonjour.
Bonjour Jean-Désiré Kanyava.
Après 25 ans de la mort du maréchal, quelle opportunité de faire une recherche sur les 32 ans de son règne?
Une grande opportunité puisque, comme vous savez, le maréchal Mobutu a marqué l'histoire du pays. Il a été aux affaires pendant 37 ans. On parle souvent du maréchal Mobutu comme étant président pendant 32 ans, mais il était chef d'état-major dès la première heure d'indépendance. Et c'était des années, donc de 60 à 65, des années turbulentes où il a joué un rôle clé.
Quel est le résultat, en bref, de votre recherche?
Le président Mobutu a marqué ce pays. Son régime a connu de haut. Il a laissé un héritage assez fort. Côté positif, c'était l'unité nationale. Il y a beaucoup travaillé.
Vous avez parlé du côté positif. Il y a également un côté négatif.
Comme je disais tout à l'heure, c'est le problème des mauvaises gouvernances. Tout pouvoir corrompt, un pouvoir absolu corrompt absolument. Donc on a vu un pays qui est monté jusqu'à son apex. Les années Zaïre où le Congo était fort, avec une monnaie assez forte. Donc à l'époque, le taux d'échange, un Zaïre, ça faisait $2 américains. Le grand tam-tam d'Afrique, la voix du Zaïre résonnait partout en Afrique. Il y avait une certaine fierté, la politique d'authenticité, l'unité nationale. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les bas, c'était la mauvaise gestion du patrimoine national, dont nos ressources naturelles, la Gécamine, la SNCC, les infrastructures, ainsi de suite. Et on ne s'est pas encore relevé de cette mauvaise gestion.
Selon vous, cette décadence a été due à quoi?
Moi, je pense que c'est justement le manque de consensus démocratique. Les contributions des uns et des autres n'ont pas été prises en compte. Quand on a un pouvoir absolu, ça finit pas bien.
Après Mobutu, il y a Laurent Désiré Kabila qui arrive, Joseph Kabila et Rodrigue Tshisekedi. Est-ce qu'il y a similitude dans leur gouvernance, des différences, des points communs?
Il y a des points communs du point de vue pouvoir, mais les contextes sont différents. Les contextes des gouvernements Mobutu, c'est d'abord l'indépendance, c'est les guerres de sécession, les rébellions, ensuite la réunification du pays. Le régime AFDL, c'est la guerre, c'est une invasion, une coalition de forces étrangères qui investissent le pays à un moment critique puisque le pays sortait d'une conférence nationale souveraine qui avait pour objectif de remettre le pays sur le bon rail. Ce processus a été déraillé par l'invasion. Les acquis de la conférence nationale n'ont pas été appliqués.
Le pays n'a pas avancé depuis lors. Pensez-vous que c'est à cause d'un mauvais soubassement, c'est à cause d'un mauvais départ?
Il y a les conséquences, la mauvaise gouvernance de ces régimes-là, donc les 32 ans de pouvoir et les côtés négatifs ont leur poids. L'infrastructure était par terre, l'unité nationale a commencé à s'effriter, les tensions de gauche à droite, les luttes armées ont repris, les déplacés internes, la crise économique et financière. Donc le Congo se retrouve aujourd'hui en pleine situation de difficultés énormes et ces difficultés pour les résoudre, il faudra un leadership plus fort, visionnaire, qui est prêt aussi à considérer les contributions des uns et des autres.
Quelle solution envisagez-vous dans votre recherche pour que le pays puisse quand même renaître de ses cendres et pour que le pays puisse se développer aussi?
Il y a des leçons à tirer des années Mobutu qui sont très positives. Tout à l'heure, j'ai évoqué à plusieurs reprises l'unité nationale. C'est un programme d'action. Mais de deux, il faudra un débat sur tout ce qui touche à la chose publique.
Concrètement, en quoi sera utile votre recherche pour la RDC, pour le peuple congolais?
Pour bien tracer son avenir, il faut connaître son passé. Il y a des leçons à tirer, j'ai mentionné quelques-unes. Donc on doit tirer ces leçons-là pour aller de l'avant. Quand on ne connaît pas son histoire, c'est difficile de tracer un avenir qui soit viable. On ne peut pas s'en passer, mais surtout il faut tirer les leçons du bon côté de ces régimes-là. Il faudra un programme d'action. Rebâtir l'éducation nationale, rebâtir l'unité nationale et lancer un programme de gestion en transparence et avec redevabilité.
En conclusion, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de vos recherches?
Que le Zaïre a fonctionné, que ça n'a pas toujours été ce qu'on voit aujourd'hui. Et du coup, on a l'impression que quand on parle des années Mobutu, on parle d'une fiction. Mais ce n'est pas d'une fiction. Les aéroports fonctionnaient, les gares fonctionnaient. Aujourd'hui, c'est difficile pour la jeunesse d'imaginer ça, que c'est possible, puisque nous y avons été.
Le professeur Vemba Pezo Dizolele, je vous dis merci.
Merci Jean-Désiré Kanyama, avec plaisir.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.